Bonjour à tout le monde. Je vous souhaite un excellent sabbat. Nous avons une brochure intitulée « Des jours fériés aux jours saints ». Le plan divin pour vous. Des jours fériés aux jours saints, le plan divin pour vous. Vous connaissez cette brochure où il est question effectivement des jours saints. Ce qui est intéressant, c'est que nous parlons de Noël dans cette brochure. Et j'ai voulu commencer mon sermon avec, en lisant un extrait de cette brochure à la page 7. La page 7, où nous lisons ceci. Notons que la première mention de Noël date de quelque 300 ans après la résurrection de Jésus. La date de la naissance du Christ n'étant pas mentionnée dans la Bible, où on l'avait mêlée aux célébrations païennes en l'honneur de Saturne. Nous allons revenir sur Saturne plus tard. Je continue. Saturne, dieu des récoltes, tenu lors du solstice d'hiver dans les jours précédant le 25 décembre, et de Mitra, dieu de la lumière, dans la fête tombée le 25 décembre. Ensuite, il n'est pas difficile de trouver des sites internet qui confirment les racines païennes de Noël. Mais j'ai trouvé cela intéressant que dans la brochure, il est mentionné qu'il n'est pas difficile de trouver des sites internet qui confirment les racines païennes de Noël. Et pour commencer mon sermon, j'ai regardé quelques sites. Il est vrai que c'est facile maintenant. Quelques décennies en arrière, c'était plus difficile à voir les origines païennes de Noël. Maintenant, ce n'est pas difficile. Et j'ai choisi deux extraits. Du reste, ce sont des hebdomadaires, des références connues. D'abord l'Express, 2014, donc ce n'est pas si vieux que ça. L'Express, 2014, on le dit en toutes lettres, on le dit ouvertement. Oui, mais Jésus n'est pas né le 25 décembre. Si l'existence de Jésus, juif, galiléen, est une vérité historique pour une majorité d'historiens, évidemment c'est quelqu'un du monde qui a écrit l'article, est une vérité historique pour une majorité d'historiens, on ne sait que peu de choses sur les débuts de sa vie. Et encore moins précisément, ses dates et lieux de naissance. Bon, lieu de naissance, si. Un peu plus loin dans l'extrait, nous lisons ceci. En parlant de la date de naissance du Christ, le choix s'est porté sur le 25 décembre qui correspondait à la fête romaine du soleil invaincu, Invictus en latin. Un culte païen destiné à célébrer le solstice d'hiver, c'est-à-dire ce moment de l'année où les journées commencent à rallonger. Deuxième citation. Parce que ce n'est pas difficile justement de trouver des sites internet qui confirment les racines païennes de Noël. Europe 1. Et ceci était écrit à peu près un an en arrière, le 25 décembre 2020. Pourquoi il n'est pas vraiment né, en parlant du Christ, pourquoi il n'est pas vraiment né un 25 décembre? L'année de naissance de Jésus continue en effet à faire débat. Seule certitude, il n'est pas né le 25 décembre de l'an 1, souligne l'historien Jean-Christian Petit-Fils. L'article précise qu'à l'époque, il voulait christianiser une fête romaine célébrant le solstice d'hiver. Je continue à lire. Il ne faut pas oublier que le 25 décembre est une fête romaine, celle du soleil invaincu, et que l'on a interprété comme étant la naissance de Jésus, confirme Thomas Romer, administrateur du Collège de France et archéologue. Ce qu'on ne sait pas non plus, c'est que Noël, même si c'était inculqué dans les mœurs, n'a pas toujours été observé. En Angleterre, par exemple, à l'époque d'Olivier Cromwell, qui a pris le pouvoir et qui était un puritain, un acte au Parlement a imposé les croyances puritaines sur tout le pays pour les distancier justement de certaines religions. Les puritains étaient des protestants au XVIe et au XVIIe siècle. Ils voulaient purifier l'Église et ils ont carrément interdit Noël à ce moment-là. Cette interdiction était levée en 1660 avec Charles II, quand son titre de roi lui a été restauré. Et de même, aux États-Unis, Noël était officiellement banni à Boston de 1659 à 1681. Ils ont tout simplement aboli Noël. Comme en Angleterre, les activités traditionnelles de Noël étaient rendues illégales dans cet État. C'était aussi l'œuvre des puritains à l'époque qui en sont venus à ne pas aimer le fait de festoyer à Noël ainsi que pour d'autres célébrations. Cela leur déplaisait. Ce sont des choses qui ne sont pas très connues. Les gens pouvaient payer une amende pour le fait de festoyer à Noël ou de ne pas travailler ce jour-là. À l'époque, l'amende était de 5 shillings. Noël en Angleterre au XVIIe siècle n'était pas si différent de ce que les gens célèbrent aujourd'hui. Un des plus grandes observances religieuses, rempli de traditions, de jours de fête, de festivités, avec une signification culturelle. Mais les puritains pensaient que de telles célébrations n'étaient pas nécessaires et étaient l'occasion de les distraire des diverses disciplines religieuses. Seulement pour vous dire que Noël n'a pas toujours été observé et que maintenant les gens peuvent avoir accès à cette connaissance sur Noël. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de Noël et plus précisément le titre de ce sermon est « Noël et la Bible ». Noël et la Bible. Et nous allons commencer, si vous le voulez bien, avec le syncrétisme. C'est un mot un peu compliqué. Syncrétisme est défini dans le dictionnaire Larousse comme étant, un système philosophique ou religieux qui tendent à faire fusionner plusieurs doctrines différentes. Le site d'une grande église parle d'un système philosophique ou religieux qui tendent à faire fusionner différentes doctrines en une seule, le plus souvent dans le désir de parvenir à unifier toutes les religions qui adorent Dieu. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. On a absorbé des croyances païennes pour pouvoir justement emmener des gens dans l'Église. L'Encyclopédie Universalis dit ceci. Dans la terminologie habituelle de l'histoire des religions, le syncrétisme désigne la fusion de deux ou de plusieurs religions. On n'est donc pas resté avec quelque chose qui était pur. On a fusionné deux ou plusieurs religions. Je continue la citation. De deux ou de plusieurs cultes en une seule formation religieuse ou culturelle. Le titre de ce sermon, c'est Noël et la Bible. Nous allons regarder ce que la Bible dit à propos de ces croyances. Nous allons commencer avec Deutéronome chapitre 12 et le verset 29. Deutéronome chapitre 12 et le verset 29. Nous sommes tout près de Noël maintenant. Les festivités augmentent. On en parle de plus en plus. Il est difficile de ne pas entendre parler de Noël, tout au moins dans nos sociétés. Deutéronome chapitre 12 et le verset 29, Dieu donne les instructions très précises. Lorsque l'Éternel ton Dieu aura exterminé les nations que tu vas chasser devant toi, avec bien sûr leur croyance, leur religion et leur pratique, lorsque tu les auras chassés et que tu te seras établi dans leur pays. Verset 30. Garde-toi de te laisser prendre au piège en les imitant après qu'elles auront été détruites devant toi. Il ne fallait pas imiter des choses qui étaient païennes, qui n'étaient pas de Dieu. Garde-toi de t'informer de leur Dieu et de dire « Comment ces nations servaient-elles leur Dieu? Moi aussi, je veux faire de même. » Verset 31. « Tu n'agiras pas ainsi à l'égard de l'Éternel ton Dieu. Tu n'agiras pas ainsi à l'égard de l'Éternel ton Dieu. Parce que Dieu a sa religion, la vérité, une religion qui ne dépend que de Dieu. Car elle servait, je continue, car elle servait leur Dieu en faisant toutes les abominations qui sont odieuses à l'Éternel, et même elle brûlait au feu leur fils et leur fille en l'honneur de leur Dieu. » Ensuite, Dieu précise dans le verset 32. Verset 32. Vous observerez et vous mettrez en pratique toutes les choses que je vous ordonne. Vous n'y ajouterez rien et vous n'en retrancherez rien. Si nous suivons la Bible, nous respectons donc uniquement ce que Dieu donne comme consigne. Le syncrétisme n'est pas nouveau. Nous voyons un exemple biblique dans 2 Rois chapitre 17. Ça existait déjà à l'époque. 2 Rois chapitre 17. Le contexte, c'est quand les enfants d'Israël ont été emmenés captifs en Assyrie. Et le roi d'Assyrie faisait venir les gens comme il est écrit dans le verset 24. Le roi d'Assyrie fit venir les gens de Babylone, de Kuta, d'Ava, de Hamath et de Sepharvaïm. Et les établit dans les villes de Samarie à la place des enfants d'Israël. Ils prirent possession de Samarie et ils habitèrent dans ces villes. À partir du verset 34, nous voyons ce qui s'est passé. Ils suivent encore aujourd'hui leurs premiers usages. Ces gens qui étaient installés à la place des enfants d'Israël qui avaient été emmenés en captivité, ils suivent encore aujourd'hui leurs premiers usages. Ils ne craignent point l'Éternel et ils ne se conforment ni à leurs lois et à leurs ordonnances, ni à la loi et au commandement prescrit par l'Éternel aux enfants de Jacob, qu'il appela du nom d'Israël. Verset 35. L'Éternel avait fait alliance avec eux et leur avait donné cet ordre. Vous ne craindrez point d'autres dieux, vous ne vous prosternerez point devant eux, vous ne les servirez point et vous ne leur offrirez point de sacrifice. Verset 36. Mais vous craindrez l'Éternel qui vous a fait monter du pays d'Égypte avec une grande puissance et à bras étendus. C'est devant lui que vous vous prosternerez et c'est à lui que vous offrirez des sacrifices. Toujours chapitre 17 et le verset 32. Ils craignaient aussi l'Éternel et se créèrent des prêtres des hauts lieux pris parmi tout le peuple, c'est donc déjà une erreur, ces prêtres offraient pour eux des sacrifices dans les maisons des hauts lieux. Verset 33. Ainsi, ils craignaient l'Éternel et ils servaient en même temps leur Dieu D'après la coutume des nations d'où on les avait transportés. Le syncrétisme y mélangeait ces deux religions. La religion pure de Dieu et leur propre religion païenne. Alan Clark fait un commentaire à ce sujet. Il dit ceci. Ils craignaient l'Éternel, c'est ma traduction, ils craignaient l'Éternel, ils servaient leur propre Dieu. Ils n'ont pas abandonné leur propre idolâtrie, mais ils ont incorporé le culte du vrai Dieu avec le culte de leurs propres idoles. Ils avaient peur de Jéhovah, qui envoyait des lions parmi eux, et par voie de conséquence, ils ont offert une sorte de culte à Dieu pour qu'il ne les afflige pas, mais ils servaient d'autres dieux. La Bible parle d'autres péchés. Deutéronome chapitre 17, versets 2 et 3. Je ne vais pas m'y rapporter, je vais seulement vous lire un extrait ici. Deutéronome chapitre 17, à la verset 2. Il se trouvera peut-être au milieu de toi, dans une des villes que l'Éternel ton Dieu te donne, un homme ou une femme faisant ce qui est mal aux yeux de l'Éternel ton Dieu et transgressant son alliance. Verset 3. Allant après d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux, après le soleil, la lune et toute l'armée des cieux, ce n'est point là ce que j'ai commandé. Si vous regardez le contexte, vous pouvez regarder cela à la maison, vous verrez qu'il fallait que la personne, c'est Dieu qui l'a ordonné, que la personne soit punie de mort. Et comme il est écrit dans la Bible, tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Alors pourquoi? Pourquoi y a ce syncrétisme? Pourquoi a-t-on absorbé toutes ces coutumes païennes dans les religions modernes? Parce que les païens étaient très attachés à leurs coutumes. Ils étaient très attachés à leurs coutumes. J'ai voulu vous lire ici un extrait. C'est Le Monde, cette fois-ci, 2015. Le Monde, 2015. Le 25 décembre, un choix hautement tactique. La date de Noël a été choisie au 4e siècle pour instaurer une continuité entre rites païens et cultes chrétiens. Dans les années 330, à la fin du règne de l'empereur Constantin, la date de la naissance du Christ est finalement fixée au 25 décembre. Fin de citation. Les païens étaient effectivement très attachés à leurs coutumes. Le problème est que ces coutumes sont contraires à la vérité biblique. Et parce que nous sommes concernés par la Bible, Noël, dans ce sens-là, tombe dans ce contexte. Voilà ce que la Bible dit. Jean, chapitre 17, et le verset 17. La vérité pour nous est extrêmement importante. C'est la vérité qui nous distingue en tant que groupe, en tant qu'individu, en tant qu'Église. Jean, chapitre 17, le verset 17, nous lisons ceci. « Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. » La parole de Dieu n'est que la vérité. Ce n'est que la parole de Dieu qui constitue la vérité en matière de religion. Donc la Bible dit « Sanctifie-les » en parlant de ses disciples par ta vérité. C'est le Christ qui parle. « Sanctifie », c'est-à-dire il fallait qu'il soit à part, qu'il soit différent, qu'il soit à part pour le service de Dieu. Donc c'est extrêmement important d'être sanctifié déjà, et c'est par la vérité que nous le sommes, que nous pouvons être sanctifiés. Pas ta vérité. Par voie de conséquence, nous avons la responsabilité de rechercher la vérité, d'accepter la vérité. Cette phrase est répétée dans le verset 19 du même chapitre. Le Christ répète cette phrase parce que cette phrase est importante. Nous comprenons l'importance de la vérité quand nous lisons dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 10, je cite seulement, « Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent. » Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Pas uniquement est-ce qu'il faut suivre la vérité, mais à la base, au préalable, il faut avoir l'amour de la vérité. C'est notre avenir, surtout quand nous voyons cette écriture, c'est notre avenir et cela devrait, par voie de conséquence, compter pour nous. L'Église, au début, l'Église de Dieu au début était, bien sûr, très attachée à la vérité. Nous lisons dans Jude, verset 3 et verset 4, deux versets avec lesquels nous sommes assez familiers. Jude, verset 3, je lis, Jude, verset 3, « Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de votre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui était transmise au saints une fois pour toutes. » La Bible Chouraki traduit ce passage de la façon suivante. C'est ce qui nous aide à mieux comprendre. « Aimés, faisons toute diligence pour vous écrire sur notre salut commun. Il m'est nécessaire de vous écrire afin de vous exhorter à combattre pour l'adhérence. » Pour l'adhérence. Il n'emploie pas le mot « foi » ici. Il est vrai que c'est le même mot qui est employé dans Hébreux chapitre 11, le même mot en grec, par exemple. Mais ici, il est traduit par « l'adhérence transmise une seule fois au consacré ». Et quand je regardais le lexique Luer à ce sujet pour le mot « foi », il dit ceci. « C'est une conviction de la vérité de quoi que ce soit. C'est la foi dans le sens plus large, conviction de la vérité de quoi que ce soit. C'est le mot « foi » dans son sens plus large. Et le lexique Luer parle également d'une conviction ou de croyance. C'est dans ce sens-là qu'il faut le comprendre dans ce passage. Conviction ou croyance. Nous le trouvons dans Actes chapitre 17, le verset 31. Actes 17, 31. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Une preuve certaine. C'est donc traduit différemment ailleurs. Je reviens à Jude, verset 3. Il y avait des problèmes à ce moment-là. Verset 4. Il s'est glissé parmi vous certains hommes. Il fallait donc combattre pour la vérité. Il fallait retenir la vérité. Aller combattre pour retenir la vérité. Et c'est ce que Jude exhortait les chrétiens à faire. Je désirais vivement, en grec, l'expression « je désirais vivement », l'expression dénote le fait de prendre quelque chose sérieusement, avec détermination pour que cela marche. Et si des chrétiens au premier siècle devaient combattre pour la vérité, à plus forte raison devant nous, des siècles plus tard, plus de 1900 ans plus tard, devons-nous combattre pour la vérité parce qu'il y a beaucoup d'erreurs qui se sont glissées, justement. Continuons à lire le verset 4. Pourquoi il fallait combattre pour la vérité? Verset 4. « Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renie notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. La foi qui était transmise aux saints une fois pour La Bible parle de la naissance du Christ brièvement, mais la Bible ne parle pas de Noël, et c'est important également de comprendre ce que la Bible dit, mais aussi ce que la Bible ne dit pas. 1 Corinthiens chapitre 15 et le verset 2. 1 Corinthiens chapitre 15 et le verset 2. Nous allons commencer avec le verset 1 pour situer un peu le contexte. 1 Corinthiens 15, verset 1. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans laquelle vous avez persévéré. Verset 2. Et par laquelle vous êtes sauvés. L'évangile donné par Dieu. La vérité. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, Paul a reçu de la part du Christ et transmet cette vérité, cet évangile à Timothée. Autrement, vous auriez cru, je continue à lire, autrement, vous auriez cru en vain. Il fallait que ce soit l'évangile, la pure vérité, l'évangile pur. Lui, à son tour, il transmettait cette vérité à Timothée, et Timothée, par la suite, pouvait la transmettre à d'autres. Il n'y a que deux évangiles qui parlent de la naissance du Christ. Marc parle de Jean-Baptiste, le baptême de Jésus, sa tentation et son ministère. Jean parle de Jean-Baptiste et de la parole, bien sûr, ainsi que de son ministère. Matthieu parle brièvement de sa naissance, je crois qu'il y a deux versets qui en parlent, et Luc donne quelques versets à propos de la naissance proprement dite du Christ. Et quand on parle des animaux qu'il y avait avec la crèche, la Bible ne parle pas d'animaux lors de sa naissance. Mais pourquoi la date de Noël ne correspond pas à la date de sa naissance réelle? Probablement, vous êtes familier avec le fait que les bergers ne pouvaient pas garder le troupeau dehors en hiver. Ce n'était donc pas le 25 décembre. Vous êtes probablement familier aussi avec le recensement fait par les Romains. Les Romains, qui étaient de très bons administrateurs, n'allaient pas faire un recensement en plein milieu de l'hiver quand il faisait froid. Quand il y avait la pluie, c'était une saison de pluie en hiver. Et j'ai voulu vous donner quelque chose que peut-être vous n'avez pas entendu avant. J'ai voulu vous indiquer un certain nombre de faisceaux d'indices qui indiquent quand le Christ est né. Nous allons commencer, si vous le voulez bien, avec Luc chapitre 1, verset 5. Comme j'ai dit, ce sont des faisceaux d'indices, mais cela corrobore l'histoire avec les bergers et le recensement des Romains. Luc chapitre 1 et le verset 5. Nous allons commencer avec Jean-Baptiste parce que Jean-Baptiste a précédé le Christ d'un peu près 6 mois. Donc, si nous savons quand Jean-Baptiste est né, nous pouvons avoir une idée de quand le Christ est né. J'ai dit bien une idée. Verset 5. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Il est mentionné ici la classe d'Abia. Les sacrificateurs de la classe d'Abia servaient à des moments précis dans le temple. Je ne vais pas vous donner tous les détails maintenant, mais si vous remontez à 1 Chronique chapitre 24, 1 Chronique chapitre 24, David, à l'époque, a organisé en classe les sacrificateurs et le verset 10 parle du 8e à Abija ou Abia. Ces différentes classes servaient à tour de rôle. Ils servaient une semaine à la fois, deux fois au cours de l'année, deux fois au cours de l'année, plus les jours de fête, quand tout le monde y était. Tout le monde servait en même temps les jours de fête. L'historien Joseph nous dit que chaque classe servait une semaine, d'un sabbat à l'autre, il dit même qu'il changeait à midi, et cette année-là, l'année de la naissance de Jean-Baptiste, nous pouvons regarder les traditions du judaïsme et nous pouvons constater que Zacharie servait justement vers la fin du mois de mai. Vers la fin du mois de mai. Et avec la Pentecôte, il ne pouvait pas rentrer chez lui après qu'il y a eu l'apparition de Gabriel, lui annonçant qu'il allait y avoir la naissance de Jean-Baptiste, que sa femme allait devenir enceinte, qu'il allait y avoir la naissance. Il ne pouvait pas rentrer chez lui avant le mois de juin. Gabriel donne une prophétie où il parle comme quoi Élisabeth, sa femme, allait être enceinte. Vous imaginez que Zacharie n'allait pas retarder la prophétie, si je puis dire, en rentrant chez lui. Donc on peut imaginer que Jean-Baptiste a été conçu au mois de juin, à peu près au mois de juin. Luc chapitre 1 et le verset 36. Luc chapitre 1 et le verset 36. Il s'agit de Marie, la mère du Christ. Là de nouveau, l'ange Gabriel lui est apparu. Verset 36. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son sixième mois. Elle était dans son sixième mois. Donc, grosso modo, il y a un décalage de 6 mois entre la conception d'Élisabeth pour Jean-Baptiste et la conception du Christ. Si nous ajoutons, si vous êtes toujours avec moi, si nous ajoutons 9 mois depuis le mois de juin, nous arrivons au mois de mars, le mois de la naissance de Jean-Baptiste. Si nous ajoutons 6 mois, nous arrivons pour voir la date de la naissance du Christ. Si nous ajoutons 6 mois, nous arrivons au mois de septembre. Au mois de septembre. Comme je l'ai dit, ce sont des faisceaux d'indices qui nous donne une indication sur le moment de la naissance du Christ. Mais ce n'était pas au moment de Noël, ça c'est certain. Ce n'était pas au moment de Noël. Il y a une autre prophétie qui est plus complexe, plus détaillée, et que nous trouvons dans Daniel chapitre 9. Nous avons un article assez détaillé dans « Vie, espoir et vérité ». Il s'agit ici, dans Daniel chapitre 9, de la prophétie de 70 semaines. Comme je viens de le dire, nous avons donc un article qui donne, et ça c'est important, j'ai voulu vous le préciser, qui donne la position officielle de l'Église. Je ne vais pas vous donner toute cette prophétie parce que elle est un peu complexe, un petit peu complexe et détaillée, mais j'ai voulu relever un certain nombre de points pour les besoins du sermon. Vous pouvez regarder les détails dans l'article à la maison. Ce qu'il faut retenir pour les besoins de ce sermon, c'est que les 70 semaines représentent 490 ans, conformément au principe biblique selon lequel un jour prophétique représente une année. Vous trouverez ce principe mentionné dans Ézéchiel chapitre 4 et dans Nombres chapitre 14, Ézéchiel 4 et Nombres 14. Ensuite, dans Daniel chapitre 9 et le verset 25, nous voyons 7 semaines et 62 semaines. Daniel 9, 25, sache-le donc et comprends, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'au conducteur, il y a 7 semaines, dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Cela fait 62 plus 7, ça fait 69 semaines. Ce qui représente, dans cette prophétie, 483 ans. 69 multiplié par 7. Puis dans le verset 27, il y a une autre semaine. Daniel 9, 27 dit, il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Donc, nous avons une semaine supplémentaire, 69 plus 1, ça fait un total de 70 semaines, où il fait une solide alliance. Dans Daniel 9, 25, il y a une date historique qui a été évoquée, où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à l'ouest. Il y a une majuscule, et Shoraki et la version Darby le traduisent par le Messie. Et Osterwald et la version Martin le traduisent par le Christ. La date historique est le décret que le roi Artaxerxès a donné en l'an 457 avant notre ère. 457 avant notre ère, annonçant justement que Jérusalem sera rebâtie et que vous trouvez dans Esdras. Si nous ajoutons 483 ans à 457 avant notre ère, nous arrivons à l'an 27 de notre ère, sachant qu'il n'y a pas d'année zéro. Année 27 de notre ère, année du baptême du Christ, année quand il a commencé son ministère en tant que le Messie, loin. Comme j'ai dit, il y a plus de détails dans l'article si vous voulez le regarder. Dans le verset 26, il est question que le loin devait être retranché. Il nous reste la semaine prophétique mentionnée dans le verset 27. Et dans le verset 27, où il est indiqué qui fera une solide alliance avec plusieurs pendant une semaine. Une semaine, toujours dans cette prophétie, représente 7 ans. Il fera cesser le sacrifice et l'offrande, et avec le Christ, le système des sacrifices n'avait plus de raison d'être. La Bible parle également de la moitié de la semaine. La solide alliance et la nouvelle alliance que nous trouvons dans le Nouveau Testament, la solide alliance et la nouvelle alliance. Et puis, en ce qui concerne la semaine, Darby et Crampon parlent du milieu de la semaine. Et la Bible de Jérusalem, c'est plus précise, elle parle du temps d'une demi-semaine. Elle parle d'une demi-semaine. Une demi-semaine sur les 7 ans mentionnés constitue 3 ans et demi. Nous savons que le Christ est mort peu de temps après la Pâque, donc 3 ans et demi avant nous amène à la période des fêtes de Dieu en l'automne. Quand il a commencé son ministère, il a effectué un ministère donc de 3 ans et demi. Pour terminer, il est écrit dans Luc chapitre 3 et le verset 23, je cite, « Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Par voie de conséquence, sa naissance a eu lieu environ 30 ans plus tôt, vers l'automne, ce qui rejoint ce que nous avons vu avec la naissance de Jean-Baptiste. » Il y a une chose qui est associée avec Noël, c'est la crèche, associée avec la naissance du Christ. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la Bible ne mentionne pas d'animaux. Le bœuf et l'âne ne sont pas dans la Bible. En 1563, le Concile de Trente avait prohibé le bœuf et l'âne afin d'épurer la crèche des croyances fondées sur des textes apocryphes. Mais sous la pression des fidèles, le bœuf et l'âne ont fait le retour dès le 18e siècle. Il faut savoir que le Concile de Trente était une réponse aux demandes formulées par Martin Luther et Jean Calvin dans le cadre de leur réforme protestante. Si vous regardez l'Internet et que vous regardez les deux grandes branches du christianisme traditionnel en Occident, elle mentionne le fait de se prosterner devant la crèche. Que dit le deuxième commandement? Exode chapitre 20 et le verset 4. Exode chapitre 20 et le verset 4. Le deuxième commandement. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Pas de représentation et encore moins de se prosterner. Verset 5, « Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. » Il y a donc un décalage, une contradiction par rapport à ce que la Bible dit quand il s'agit de la crèche de Noël. La Bible dit aussi qu'il nous faut vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'arbre décoré de Noël n'est pas nouveau. L'arbre de Noël, le sapin de Noël, nous trouvons ce que la Bible dit dans Jérémie chapitre 10 et le verset 1. Jérémie chapitre 10 et le verset 1. C'est intéressant ce que Dieu dit. Dieu est direct, il dit clairement de quoi il retourne. Jérémie chapitre 10, verset 1. Écoutez la parole que l'Éternel vous adresse, maison d'Israël. Verset 2. Ainsi parle l'Éternel, n'imitez pas la voix des nations. On a vu tout à l'heure le syncrétisme qui existe. N'imitez pas la voix des nations et ne craignez pas les signes du ciel parce que les nations les craignent. Verset 3. Car les coutumes des peuples ne sont que vanité. Vanité, même si c'est quelque chose sur le plan humain qui fait plaisir, c'est vide. C'est vide sur un plan spirituel. N'imitez pas la voix des nations. On coupe le bois dans la forêt, la main de l'ouvrier le travaille avec la hache. Verset 4. On l'embellit avec de l'argent et de l'or. On le fixe avec des clous et des marteaux pour qu'il ne branle pas. Cela nous fait penser à l'arbre de Noël, le sapin de Noël. Il s'agit ici d'une idole faite de bois. Toutes les idoles n'étaient pas faites de bois. Cela décrit entre autres ce que nous avons encore de nos jours. L'arbre, le sapin de Noël. Cela nous fait vraiment penser à cela. Il y a une expression dans la Bible, « sous tout arbre vert », que nous trouvons dans 2 Chroniques, chapitre 28 et le verset 4. 2 Chroniques, chapitre 28 et le verset 4. J'ai trouvé une dizaine de références où il est question de « sous tout arbre vert ». Verset 4, « Il offrait des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux, sur les collines et sur tout arbre vert. » Et nous trouvons cela aussi dans Jérémie chapitre 3 et le verset 13. Jérémie chapitre 3 et le verset 13. « Reconnais seulement ton iniquité. Reconnais que tu as été infidèle à l'Éternel ton Dieu, que tu as dirigé çà et là tes pas vers les dieux étrangers. » On revient toujours à ces dieux étrangers, vers les dieux étrangers sous tout arbre vert. L'arbre vert, donc, est associé avec les dieux étrangers. Et nous savons que les anciens Babyloniens célébraient le fait que Nimrod, lorsqu'il est mort, a soi-disant repris vie. Il y avait son fils Tammuz. Il y avait à ce moment-là le culte de l'arbre vert. Ils célébraient cette renaissance lors du solstice d'hiver. Jérémie a condamné Israël pour le fait de copier cette pratique païenne. Et c'est quelque chose que nous avons toujours avec nous. Cette tradition a persisté à travers les siècles, à travers les Saturnales et à travers Mithras, à travers le culte de Saturne et le culte de Mithras, et Israël a adopté ces cultes païens des milliers d'années en arrière, ces cultes païens comme vous pouvez voir dans Ésaïe chapitre 57, et le verset 5. Ésaïe chapitre 57, et le verset 5. Voilà ce qui dit Futura Science sur les Saturnales, une fête en l'honneur du soleil. Cette grande fête d'origine agricole était en l'honneur du sol invictus, en français le soleil invaincu. Elle durait 7 jours entiers, du 17 au 24 décembre, c'est-à-dire autour du solstice d'hiver. 7 jours d'ivresse, de festin, où tout le monde s'offrait des cadeaux, sans distinction sociale, et décorait sa maison avec des végétaux qui restent verts toute l'année, tels le pin, le chêne vert, etc. Je termine avec la reine du ciel. La reine du ciel est quelque chose dont vous entendez parler à notre époque, en association avec Noël ou à cause de Noël. Et Jérémie en parle, il parle dans le contexte des gâteaux qui étaient offerts à la reine du ciel et de l'encens qui était offert à la reine du ciel. Il en parle surtout dans Jérémie chapitre 44, où il est question à plusieurs reprises dans ce chapitre. Mais lisons le verset 17. Jérémie, chapitre 44, et le verset 17. « Mais nous voulons agir comme l'a déclaré notre bouche, offrir de l'encens à la reine du ciel et lui faire des libations comme nous l'avons fait, nous et nos pères, nos rois et nos chefs, dans les villes de Juda, et dans les rues de Jérusalem. Alors nous avions du pain pour nous rassasier, nous étions heureux, et nous n'éprouvions point de malheur. » Il voulait visiblement continuer ce culte. Voici ce que dit une analyse que j'ai trouvée sur Internet, site God Questions. L'origine de l'idée qu'Astarté serait l'épouse de Yahweh n'est pas clair, mais on comprend facilement comment un syncrétisme entre le paganisme qui exalte une déesse et le culte du roi du ciel, Yahweh, mène à associer Dieu et Astarté. Le même article dit ceci, « Il n'y a pas de reine du ciel. Il n'y a pas de reine du ciel, il n'y en a jamais eu. Il y a un roi du ciel, Yahweh, l'Éternel des armées, qui seul domine le ciel et ne partage son trône, sa puissance et son autorité avec personne. » Il parle dans le contexte par rapport à de la reine du ciel et bien sûr parle du Christ qui s'est assis à la droite de Dieu. Il n'y a pas de reine du ciel. Et tout ceci est quelque chose qui est invoqué à cause de la naissance du Christ et qui est associé jusqu'à un certain point avec Noël. J'ai voulu vous montrer un certain nombre de points qui mettent côte à côte la vérité de la Bible et Noël. Des croyances païennes qui existent et qui sont associées avec Noël. Avant tout, il faut chercher la vérité. Il faut avoir l'amour pour la vérité de Dieu. rechercher cette vérité, être convaincu par la vérité, vivre de la vérité, c'est-à-dire avec ce qui plaît à Dieu, de ce qui vient de Dieu. J'ai cité Jean 17, chapitre 17, verset 17 au début du sermon, et j'aimerais revenir sur ce passage. J'aimerais revenir donc sur Jean 17, verset 17 pour terminer ce sermon. Jean 17, verset 17, parce que c'est très important de vivre de la vérité, c'est très important de discerner ce qui est vrai de ce qui ne l'est pas, ce que la Bible dit et ce que la Bible ne dit pas, et de voir les origines de certaines croyances qui existent de nos jours, surtout à notre époque. Jean 17, verset 17. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. C'est la parole de Dieu, ce n'est que la parole de Dieu. Il ne faut pas ajouter quelque chose à la Bible. Il ne faut pas retrancher quelque chose de la Bible. Nous voyons déjà ce principe dans Apocalypse 22, où il est question de ne pas ajouter ou de ne pas retrancher quelque chose des paroles du livre de la prophétie. Il nous faut rester avec la parole de Dieu. Jean chapitre 17, verset 17. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité et nous avons le privilège de connaître la vérité. Dieu a ouvert nos yeux sur la vérité, sur sa vérité. Nous avons le privilège de vivre selon cette vérité qui vient, qui nous vient de la part de Dieu et que nous lisons dans sa parole. Vivons selon la vérité et non selon les coutumes païennes du monde.